la frontière artificielle qui a été créée, qui coupe des villages en deux, qui coupe des maisons en deux. Vous avez des gens qui mangent le soir en République d'Irlande et qui dorment en Ulster occupé. C'est un truc complètement artificiel, ahurissant et ubuesque.
Box.
L'homme peut-il contrôler sa destinée? C'est la question à laquelle j'espère trouver une réponse.
Jukebox.
Des histoires en musique.
Oh, le futur est déjà écrit, il est irrévocable, on ne peut pas le changer.
Ah bon, Richardo.
À défaut de réinventer le futur, chaque samedi à 19h sur France Culture, Jukebox ressuscite le passé via un texte, des archives et des musiques choisies. À l'heure des errances du Brexit, nous irons ce soir nous plonger dans l'un des angles morts du 10 Downing Street, la question irlandaise. Autrement dit, une île tiraillée depuis un siècle au moins par l'envie de certains de se soustraire de l'orbite de Londres, mais que la Grande-Bretagne et ses partisans sur place refusent d'abandonner. Cette histoire, nous la relirons ce soir à l'aune d'un phénomène moins connu, celui de la révolution punk qui explose sur place à la fin des années 70, pied de nez à la violence et au sectarisme ambiant. Ce soir, Belfast 1977-1982, les troubles à la sauce punk. Dans l'air froid qui transperce les semelles et les pulls en laine, les papiers gras s'envolant au passage des voitures et la solitude des lampadaires comme des sentinelles sur ces étendues bétonnées, un jeune type fait face à un mur, quelque part, à l'ouest de Belfast. Le mur, imposant par sa hauteur ses plus de 6 mètres et qui bouche l'horizon. Les yeux du gamin parcourent cette barrière et ses mauvais rejointoiements. Ses yeux naviguent parmi les slogans qui le parsèment dans cette ville où les gosses barbouillent les murs de leurs engagements. Il semble y trouver de l'inspiration, détaillant les différentes inscriptions. IRA, INLA, UVF, UFF, UDA, mais aussi FTP, Fuck the Pope, ou bien FTQ, Fuck the Queen. Il s'avance, un peu voûté, vers un bout de mur vierge. Il hésite tellement qu'au moment de brandir son aérosol, il se ravise, recule d'un pas, tirant sur son mégot. Une voiture passe. Puis il revient au mur, et tandis qu'au loin, un groupe de bourrés gueule on ne sait quoi, lui, fébrile, pressé, trace maladroitement son message à Belfast. Ses lettres sont de traviole, son S ressemble à un N, mais peu importe, ça existe, son groupe existe. Personne, à part lui, ne le sait encore, mais ces trois initiales, pour lui, font sens. Rien n'est perdu, et ça va bastonner. rêves d'adolescent sont-ils si difficiles à effacer, cette fille, à chaque fois qu'elle descend dans la rue? J'aimerais tant qu'elle soit à moi, je voudrais la serrer contre moi, lui faire monter la fièvre toute la nuit. Alors je vais l'appeler, je me sens tout seul, j'ai tant besoin d'excitation, j'en ai salement besoin. Mélange d'excitation et de frustration, ce Teenage Kicks par le groupe The Undertones, un groupe formé par 5 jeunes de Londonderry, Derry, la seconde ville d'Irlande du Nord, et publié en septembre 78. Un disque qui connaît d'emblée un succès immense grâce au célèbre animateur de la BBC d'alors, John Peel, qui, recevant le disque, l'avait passé 2 fois de suite sur les ondes. Peel, qui prendra d'ailleurs comme épigraphe sur sa tombe la première phrase de la chanson « Our teenage dream so hard to beat ». Teenage Kicks, qui témoigne donc des errances d'une jeunesse, mais qui résonne aussi comme un manifeste, celui d'ignorer le contexte politique qui a alors cours en Irlande du Nord. Difficile pourtant de faire abstraction du quotidien en Ulster. Belfast ressemble alors à une ville assiégée. Pourtant, depuis quelque temps, cette fin des années 70, malgré les violences sectaires et les murs, les barbelés et les voitures piégées, des gamins se mettent à résister. Non pas avec des cocktails Molotov, des bombes ou des pierres comme nombre d'autres, mais en s'unissant derrière l'étendard esthétique d'une révolte musicale, celle du punk. Après tout, si la vie ne se résume qu'à des impasses, mais que ce connard de protestant ou de catholique, ce type de l'autre bord que tu es censé détester, lui aime la même chose que toi, alors pourquoi ne pas se retrouver autour de ça? Les punks, qu'ils soient de milieu catholique ou protestant, républicain ou loyaliste, partagent d'être regardés de travers par tous les autres. Pas assez orthodoxes, pas assez engagés, trop nihilistes, trop. La vie est courte, si les autres trouvent à y redire qu'ils aillent tous se faire foutre, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Ainsi était né le punk en Irlande du Nord, parmi les catholiques de Derry, comme The Undertones, ou bien parmi les protestants de Belfast, à l'image des enragés du groupe Stiff Little Fingers, qui, en 1978, balance à la gueule des foules cette alternative Ulster. Il n'y a rien pour nous à Belfast. Le Pound est un vieux pub qui fait pitié. Ok, il y a le Trident à Bangor, mais vous n'avez qu'à rentrer à pied après le concert. On n'a rien, mais ils s'en foutent. Tout ce qu'ils veulent, c'est le pognon. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une autre Ulster. Saisis-toi du problème, ignore leurs frontières et leurs lois. Change ta terre natale. We'll be right back. Alternative Ulster, le groupe Stiff Little Fingers formé à Belfast dans les milieux protestants de la ville et qui, avant de devenir l'un des fleurons du punk local, jouait des reprises dans les pubs. Publié en 1979 au plus fort du conflit, cette chanson, au-delà des divisions entre communautés, s'élève contre la condition de la jeunesse d'alors en Irlande du Nord, privée de l'insouciance et de presque tout dont pouvaient jouir à la même époque les autres jeunesses occidentales, n'ayant le choix que de s'engager soit dans le camp nationaliste, soit du côté unioniste. Ans plus tôt, en 1969, l'île s'était embrasée. On résume trop souvent la question nord-irlandaise à une opposition entre catholiques et protestants. Le problème irlandais est plus complexe. Si les deux camps qui s'affrontent recoupent à première vue les frontières de ces deux communautés religieuses, il ne s'agit en rien ici d'une guerre de religion, mais d'un conflit concernant le rattachement de l'île au Royaume-Uni. Après un long 19e siècle, émaillé de famine et de privations, en 1919, la République d'Irlande avait déclaré son indépendance. Indépendance actée, 2 ans de guerre plus tard, lors d'un traité, mettant donc fin à la domination britannique sur la plus grande partie de l'île au sud. Cette guerre, héroïque et volontiers héroïsée, marque les esprits, marque les mémoires, les mythologies familiales. Pour ceux du Sud, désormais libérés de la tutelle de Londres, mais aussi pour ceux qui, habitant au Nord, restent prisonniers de l'influence du Royaume-Uni. Là, en Ulster ou en Irlande du Nord, même si les deux termes ne désignent pas exactement le même territoire, bref, au Nord, se creuse progressivement un fossé entre les unionistes, on parle aussi de loyalistes qui souhaitent que cette partie de l'île reste dans le giron britannique, et de l'autre côté, les nationalistes, républicains, favorables à un rattachement à la République irlandaise du Sud. Les premiers sont majoritairement protestants, les seconds catholiques. Or, ces derniers, minoritaires, souffrent de nombreuses discriminations dans l'accès à l'emploi, aux écoles, aux logements sociaux. Souvent privés du droit de vote, car seuls les propriétaires peuvent voter, ou de la possibilité de pouvoir se réunir, ils dénoncent régulièrement le fait d'être traités comme des citoyens de seconde classe. Le ras-le-bol qui monte à la fin des années 60 constituera le point de départ de ce que l'on appelle alors les troubles, drôle d'euphémisme pour qualifier une guerre civile. Dès 1966 se crée ainsi le mouvement des droits civiques, regroupant des catholiques réclamant l'égalité avec les protestants. Les manifestations sont violemment réprimées par les B-Specials, une force auxiliaire de police constituée exclusivement de protestants. Et puis tout à coup, le couvercle de la marmite saute, l'été 1969, dans la ville de Derry.
Depuis 19h15, les troupes britanniques sont dans Belfast. Elles sont en ce moment en train de prendre position autour des quartiers pauvres de la ville, dans ces quartiers où les émeutes ont éclaté hier soir, des émeutes qui ont fait, souvenez-vous, 6 morts et plus de 100 blessés. Au cours de la journée, des fusillades ont éclaté, dans Folge Road en particulier, le quartier le plus pauvre de Belfast. Les autobus ont été renversés, servent maintenant de barricades, ça brûle dans certains endroits de la ville, mais pour l'instant, les bagarres n'ont pas encore pris une ampleur catastrophique. Il n'en demeure pas moins qu'ici à Belfast, l'atmosphère est très lourde, les esprits sont tendus, et on peut même dire que les deux communautés religieuses sont prêtes à s'affronter.
Teenage rebel, oh, take a teenage rebel. We're rebels. We're rebels. We're teenage rebels. Oh, and the teachers cannot understand why the pupils are now beyond the command. They ask the shrinks, what's wrong with us? The shrink says, oh, another teenage rebel. Another spotty problem kid. Another teenage rebel. Oh, take a teenage rebel away. Oh, another teenage rebel. Another spotty problem kid. Another teenage rebel.
Je suis né en 1959, je ne vois pas l'intérêt d'être en vie, de rester propre, je ne vois d'intérêt à rien. Maman ne réalise pas que son petit Jackie est un gosse à problème. Qu'est-ce qui ne va pas avec lui ? Demande-t-elle au médecin. Et le docteur lui répond, c'est encore un autre adolescent rebelle, emmenez-le loin d'ici. Just Another Teenage Rebel, 1978, le groupe de Belfast, The Outcast, les Parias, un nom choisi par le guitariste après que le groupe se soit fait virer de 5 pubs. Formé en 1977 autour de 3 frères, ce sont des musiciens exécrables qui se produisent dans des pubs de la ville, mélangeant des reprises des Sex Pistols ou des Ramones à quelques-unes de leurs compositions. Leurs concerts ne durent souvent pas plus de 20 minutes, tout le monde se fout sur la gueule. Comportement loufoque, image de bad boy, The Outcast deviendra l'un des fers de lance de la révolte punk, surnommé par la presse locale « The Band You Love to Hate ». Le groupe que vous adorez haïr.
I come from India to Belfast town. I'm tall and handsome and my skin is brown. I got no money but I'm ready to work. And I got me a house in Gilnahook. I'm selling clothes.
La haine qui est un sentiment de plus en plus partagé. La répression du mouvement des droits civiques enflamme le Bogside, le bastion catholique de Derry. La vieille IRA, laminée depuis la guerre d'indépendance, renaît de ses cendres pour protéger les quartiers catholiques des attaques des milices protestantes. L'intervention de l'armée britannique l'été 69 ne fait qu'ajouter un acteur de plus à l'équation, insoluble, qui monte les uns contre les autres. Au début des années 70, les campagnes terroristes des groupes paramilitaires des deux camps plongent le nord de l'Irlande dans le chaos. Le conflit redessine la géographie urbaine des principales villes, Derry ou Belfast, où jusque-là, les centres-villes étaient des espaces partagés, mixtes, où protestants et catholiques fréquentaient les mêmes cinémas, les mêmes pubs, les mêmes salles de concert et partageaient des amitiés. Or, la flambée des violences entraîne l'érection de murs, ces soi-disant « peace walls », qui, dans un nombre infini de replis urbains, séparent un groupe d'immeubles d'un autre, d'un côté les nationalistes, de l'autre les unionistes, d'un côté les cathos, de l'autre les protestants. Alors, on n'est pas à Berlin, on ne risque pas d'être fauché par la mitrailleuse d'un garde-frontière, non. Ici, la guerre est larvée, mais il devient de plus en plus dangereux de se pointer de l'autre côté, en pleine journée, dans ces quartiers populaires où chacun connaît tout le monde et où, si vous n'êtes pas connu, c'est que vous venez d'ailleurs, et alors, mieux vaut courir vite. Belfast se referme. Autrefois capitale rock de l'Irlande, via sa scène beat, le groupe Them de Van Morrison et ses salles qui accueillaient chaque année les Stones, les Beatles, Bob Dylan ou Led Zepp, la mixité disparaît, laisse place à un climat de méfiance et de peur. Une peur alimentée par la création de milices paramilitaires comme l'UVF ou l'UDA côté unioniste. L'IRA, de son côté, ne se prive pas. Œil pour œil, colis piégés, voitures piégées, kidnapping, rafales de fusils mitrailleurs. Des fusils souvent de marque américaine, des Armalite, ceux-là même que dénoncent en 1978 les punks, quoique anglais, du groupe Gang of Four.
This into a prank. A child can carry it. Do it no harm. Armalite rifle and the Holy Trinity is used against you. The Irish jokes on the BBC. Armalite rifle. Police and UDA. Armalite rifle. Use it every day. rifle does harm. It shoots for miles if a bullet gets you in the arm. Destroys your insides.
Armor like rifle.
Police and UDI.
Armor like rifle.
Use it every day.
Extrait du tout premier single du groupe de Leeds, The Gang of Four, Armalite Rifle, enregistré en 78, et dénonciation des armes alors en usage. Ces fusils Armalite qui étaient devenus le symbole de la lutte des républicains, fabriqués aux États-Unis et importés en masse et en contrebande via des bateaux la nuit au début des années 70. Compact et précis, l'Armalite avait été surnommé The Widowmaker, le faiseur de veuves. Certains rigolent comme ils le peuvent.
Don't wait for the postman. If you're looking for a letter from me, there won't be any more. There won't be any more.
Ne guette plus le postier, n'attends plus de lettres de ma part, il n'y en aura plus. N'attends plus mon appel près du téléphone, il n'y en aura pas. Quand le Miami Show Band avait publié ce titre l'année précédente, en 1974, la chanson n'avait pas la même signification qu'elle prendrait au lendemain du 31 juillet 1975. Cette nuit-là, un van ramène de concert les membres de ce groupe fondé à Dublin 12 ans plus tôt. Très populaires, on les surnomme les Beatles irlandais. Beaux gosses, cheveux longs, col de chemise, pelle à tarte, chavirant le cœur des filles via des chansons d'amour, c'est en outre un groupe mixte, 5 catholiques et 2 protestants. Ce soir-là, le Miami Show Band revient d'un concert donné à Bangor, près de Belfast, et ils rentrent chez eux, à Dublin. À 2h30 du matin, tandis que le van s'approche de Newry, non loin de la frontière, il est arrêté à un checkpoint, apparemment tenu par l'armée britannique, contrôle de routine. Sauf que les militaires ne sont pas membres de l'armée britannique, mais de l'UVF, une milice paramilitaire protestante et loyaliste. Des miliciens qui tentent de glisser sous le siège passager une bombe censée exploser plus tard, mais qui se déclenche prématurément, tuant 3 membres du groupe et en blessant un 4e. L'attaque marque un coup d'arrêt. Les groupes de Belfast ou de Derry qui tournaient un peu partout ont tendance à ne plus jouer que dans des salles dépendant de leur territoire. Même la musique populaire ne parvient plus à rassembler protestants et catholiques. Les violences sont telles que les groupes étrangers ne veulent plus venir en Irlande du Nord, trop dangereux. Heureusement, le punk s'apprête à remettre les pendules à l'heure. Le punk qui, depuis 76, explose dans l'Angleterre prolétaire et dont le slogan, le fameux « No Future », résonne forcément un peu particulièrement aux gamins de Belfast, eux qui sont plongés dans l'enfer. Les londoniens des Sex Pistols ne s'y trompent pas, qui chargent les paroles d'Anarchy in the UK, leur plus célèbre chanson, d'une dédicace à l'Irlandaise, se demandant « Is this the UDA or is it the IRA ?» I thought it was the UK. L'IRA, l'UDA, deux groupes paramilitaires. Malgré l'évidence qui devrait unir le punk à la jeunesse désabusée d'Irlande du Nord, sur place au début, le genre reste pourtant confidentiel. À Bangor, une station balnéaire où les Belfastois s'échappent le week-end pour aller danser, deux boîtes de nuit, le Trident et le Viking, se mettent à passer les premiers disques punk. Et puis, à Derry, il y a la Casbah ou bien le Rock Club, deux pubs où les vendredis et samedis soirs se produisent les premiers groupes locaux. Dans ces lieux se retrouvent surtout des types de toutes les religions, de tous les milieux, de tous les âges. Mais à cette naissance du punk en Irlande du Nord, il fallait bien un acte fondateur, lequel, en accord avec l'humour local, s'était figuré au travers d'un rendez-vous manqué. En octobre 77, on annonce la venue des Clash à Belfast. Les Clash, dont le premier album est sorti au printemps précédent, c'est un peu comme si Dieu débarquait enfin. Le groupe qui, ce 20 octobre, se pointe à l'aéroport de Belfast. Aux douaniers qui leur demandent où ils vont se produire, ils répondent à l'Ulster Hall, le vénérable théâtre de la ville ouvert en 1862. « Ah bon ?» leur répond le type. « Au moins là, vous ne risquez pas de vous faire exploser les rotules. » Clin d'œil à la mauvaise manie des paramilitaires de tirer dans les genoux de ceux qui leur déplaisent. « Welcome to Northern Ireland !» En attendant, des fans venus des quatre coins du pays se sont rassemblés et attendent l'ouverture des portes. Sauf qu'à la dernière minute, l'événement est annulé. L'assureur qui devait couvrir la soirée vient de se désister. Ce mélange de tensions politiques et d'énervés en blouson de cuir, finalement, non. On cherche une solution de repli du côté de l'université, mais la Queen's University refuse. Exaspérés de s'être déplacés pour rien, les spectateurs forment une chaîne humaine, bloquent la rue, des vitres de l'Ulster Hall volent en éclats. Les autorités font alors appel à la police, la RUC, qui riposte à son habitude de manière disproportionnée, matraquant les jeunes à tout va. Au moins deux gamins finissent à l'hosto. L'histoire du punk nord-irlandais peut enfin commencer. Les Clash, eux, décident d'aller se faire photographier devant un tank et des militaires britanniques. Joe Strummer n'a jamais caché ses sympathies républicaines. L'image fera le tour du monde. France Culture, Jukebox, ce soir, Belfast, côté punk. White Riots, I Want to Riot, les clashs et l'appel à l'insurrection contre le pouvoir, tiré du premier album du groupe, paru au printemps 1977. Blood, 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 blood and fire. Blood, blood, blood and fire. Ce conflit qui, mois après mois, année après année, n'en finit pas de dégénérer en guerre civile, un type de Belfast décide de s'y attaquer. Pourquoi est-ce que la politique devrait tout foutre en l'air et séparer des mecs qui jusqu'alors se marraient ensemble ? Ce type s'appelle Terry Hooley. un peu barré, passionné par les musiques populaires. Il bosse à mi-temps chez Kodak et, en dehors de ça, achète des disques en gros qu'il revend au détail sur St. George Market, un marché de Belfast. Et puis, il fait souvent le DJ en marge de concerts. Parmi ceux qui dansent sur ces DJ sets, rock ou reggae, on trouve de tout, des anars, des marxistes, des maoïstes, tous ces types qui, tandis que le conflit dégénère, se déchirent et sont prêts à s'entretuer au nom de l'orthodoxie de la lutte armée. Qu'ils en soient arrivés à se détester autant, ça n'est juste pas possible. Alors, en 76, Terry Hooley tente un truc. Il décide d'ouvrir un magasin de disques au premier étage d'un immeuble abandonné situé sur Great Victoria Street. Ce sera Good Vibrations, minuscule disquaire dédié au punk et qui, des années durant, ne désemplira pas. On y trouve toutes les nouveautés, punk ou new wave, des fanzines, des imports, des posters que les types qui n'ont pas une livre en poche lui piquent dès qu'il a le dos tourné. Surtout, ce lieu permet à tous les gamins de se retrouver, quelles que soient leurs origines. Alors, un disquaire c'est bien, mais un label, ce serait mieux. Ce sera chose faite après qu'en janvier 78, Terry assiste à un concert au Pound, un vieux pub crasseux de Belfast où se produisent ce soir-là deux groupes de la ville. Cette nuit-là, les flics débarquent avec des militaires, commencent à évacuer la salle. L'enfer s'empare des lieux. Les gamins qui assistent au concert ne se laissent pas intimider ni par les flics ni par l'armée. L'anarchie qui se déploie sous ses yeux fascine Terry. De même que l'un des groupes qui joue alors sur scène, un groupe baptisé Rudy, formé 3 ans plus tôt à Belfast, et qu'il décide d'enregistrer. Le 7 février 78, deux chansons sont enregistrées au Hyde Park Studios de Temple Patrick, près de l'aéroport de Belfast. Les 3000 exemplaires seront rapidement écoulés. Pour la première fois depuis les années 60, Belfast est en train de donner naissance à sa propre scène musicale. Avoir été produit par le label Good Vibrations pour ce Big Time de 1978. L'aventure de Good Vibrations qui, dès lors, ne demande qu'à se poursuivre, peu importe la pauvreté lexicale de la musique produite, seule compte l'énergie furieuse qui transparaît. Bientôt, Terry Hooley produit d'autres groupes. Victim ou bien encore The Outcast, les parias qu'on écoutait tout à l'heure. Fidèle à la philosophie punk du « do it yourself », Good Vibrations fonctionne sur une économie fragile. Presque tous les singles sont enregistrés au même endroit, au studio Wizard, installé dans un ancien atelier de confection. Les pochettes des albums sont reproduites au photocopieur et pliées par les musiciens eux-mêmes. En avril 79, Terry emmène en tournée trois de ses groupes, dont Rudy et Outcast. Tournée à travers l'Irlande pour 10 concerts où il brise énergiquement la glace et les préventions des locaux rassemblés dans de petites salles. Je me souviens qu'à la fin d'un concert à Glenarm, raconte Terry, j'ai pissé et je suis tombé dans une rivière. J'étais complètement trempé, alors j'ai retiré tous mes vêtements et j'ai sauté à l'avant de la voiture. Sur le chemin du retour, nous avons été arrêtés par l'UDR. Cette femme m'a demandé si je portais une pièce d'identité sur moi. Je lui ai dit « Oui, dans le coffre de la voiture, tu veux vraiment que je sorte pour te la montrer ?» Et de fait, les militaires britanniques ont du mal à comprendre que des protestants et des catholiques puissent alors se balader en pleine nuit dans un même véhicule. Extrait du film Good Vibrations, réalisé en 2013 par Glenn Leburn et Liza Barossa.
What the fuck have we here, eh? A fucking scarecrow convention?
Listen, fellas, we've just been playing a few dates. We're on our way back home to Belfast.
Oh, yeah? And where are you all from in Belfast?
East, west, east, south, south, north.
Hey, are you taking a mick? Mick, you're telling me some of these fuckers are Protestant and some of them are Catholic?
Never occurred to me to ask.
You ever think of setting up a political party?
You don't want to know what I think of political parties.
You don't want to know what we do either. All right, let them back on their bus.
My boys, back on board.
I said no.
Un à un, les puissants sont tous tombés, les citadins se cachent et pleurent. Un à un, les corps déposés sous une bâche. Un à un, des bibles serrées dans des mains ensanglantées, les autorités nettoient le sol des fleurs pour y enterrer les amis de l'oncle Sam. One by one, 1979, le premier single publié chez Good Vibrations par le groupe Rouflex, formé 2 ans plus tôt à Belfast et qui n'hésitait jamais, dit-on, à aller se produire où que ce soit au nord, ignorant les frontières sectaires. Contestataire, le punk nord-irlandais de cette époque ne prête le flanc ni allégeance à aucune idéologie politique. Il est simplement désabusé dans le refus systématique et le dénigrement. Sa révolte est existentielle et esthétique plutôt que politique. On se retrouve les soirs pour des concerts dans des pubs, on pogote, on crache sur les musiciens qui jouent, mais c'est une saine violence. Ces années 77-79, le punk sert au moins à ça, rassembler la jeunesse de 2 communautés, une soupape comme il y en avait d'autres à l'époque, à destination d'autres publics, comme les combats de boxe, les courses de lévrier ou bien certains milieux homosexuels. Les concerts punk ont d'abord lieu dans des hôtels, des MJC de la banlieue de Belfast, jusqu'à ce qu'en fin 77, 2 bars du centre-ville se mettent à programmer des concerts. Il s'agit du Pound et du Harp. Puis suivront le Manhattan, le Laveries, le Labour Club et d'autres. Plus tard, en 81, les punks de Belfast se retrouveront même au Carpenter Club, un club gay de la ville, mais que ses propriétaires prêtent chaque samedi à un collectif anarchiste. Hors des regards, ceux de leurs parents, de leurs pères, des codes censés régir les relations sociales, sexuelles, politiques ou religieuses, ces gamins se retrouvent et s'éclatent. Au passage, dans une société aussi patriarcale que l'Irlande, des filles sont de la partie. Ce ne sont pas seulement les copines des musiciens ou bien des punks. Non, elles adoptent elles-mêmes les codes punk. Même si, évidemment, à vivre et à chanter, le mal de vivre d'une jeunesse ne suffit pas à faire taire le réel. En 76, tandis que le punk s'emparait de Belfast, dans les prisons d'Irlande du Nord s'étaient lancées les fameuses grèves, grève des prisonniers, grève des couvertures, de l'hygiène, et qui aboutissent en 1981 aux célèbres grèves de la faim.
Il était 00h17 hier soir à Belfast lorsque le détenu catholique Bobby Sands est mort au terme d'une grève de la faim de 65 jours, une grève suicidaire dont on se demande maintenant à qui elle va profiter.
Archive, 5 mai 1981.
Dans les heures qui ont suivi l'annonce du décès de Bobby Sands, les quartiers catholiques de Belfast se sont hérissés de barricades et les manifestants ont harcelé les soldats anglais, cocktail Molotov contre balles en plastique. En attendant peut-être une flambée de violence beaucoup plus grave, le calme est revenu à l'aube dans les rues de Belfast, le deuil a repris le dessus sur l'esprit de vengeance.
Au même moment, dans les quartiers catholiques de Belfast, des couverts de poubelles qu'on frappe sur la chaussée, c'est le signal du rassemblement. La communauté catholique descend dans la rue. Au milieu des klaxons, des cris de détresse, Bobby, Bobby, les femmes s'agenouillent et récitent des prières. Un temps pour le recueillement, un temps pour la colère.
The men of violence have chosen in recent months to play what may well be their last card. They've turned their violence against themselves through the prison hunger strike to death.
Les nationalistes de l'IRAS ont maintenant leur martyr et le premier ministre anglais Margaret Thatcher a justifié sa réputation de femme de fer. À aucun moment, elle n'a accepté de reconnaître aux militants de l'IRA leur qualité de combattant politique. Pour elle, ce sont des criminels, ni plus ni moins. Elle l'a dit et redit clairement cet après-midi devant le Parlement britannique.
Crime is crime is crime. It is not political, it is crime.
Cette grève de la faim dans la prison de Long Cache, les maudits H-Blocks, se terminera l'été 81 à l'issue de la mort d'un 10e homme, tous devenant des martyrs de la cause nationaliste et républicaine. Mais on oublie un peu vite que les hommes n'étaient pas seuls à s'engager aussi radicalement. Des femmes aussi payent leur engagement dans le conflit, elles le payent dans leur chair. Ces femmes sont 36, emprisonnées à la prison d'Armagh, près de Belfast. Ce sont des sympathisantes républicaines et elles aussi refusent de porter l'uniforme des droits communs. Ces gamines de 20 ans, en février 80, entament elles aussi une grève de l'hygiène, refusant de se laver, chiant, pissant à même le sol de la prison, barbouillant de leurs excréments les murs des cellules. elles non plus n'obtiendront pas gain de cause, mais elles seront célébrées par une chanteuse féministe et engagée dans un titre de 1981 intitulé « Arma ». Écoutons les paroles. Il y a 32 femmes dans la prison d'Arma, des prisonnières politiques. Elle, qui a froid, qui est malade, ne reçoit que du Valium. Maintenant, elle est détendue, en vue du prochain interrogatoire. Nue, sur le dos, écartée, la meilleure position pour un examen interne, pour donner des informations. Mais à part ça, nous ne torturons pas. Nous sommes une nation civilisée. Voici Arma, par les Britanniques du groupe Au Pairs. Arma 1981 par le groupe The Au Pairs, formé à Birmingham en 78, derrière sa chanteuse Leslie Woods, féministe et lesbienne engagée. Pendant ce temps, donc, le punk fait son trou en Irlande du Nord. On se retrouve pour des concerts dans les pubs du centre. L'image de ces punks est désastreuse auprès du grand public, qui ne comprennent pas le sens de leurs provocations, leurs épingles à nourrice ou bien leurs croix gammées. Et pourtant, ces punks sont relativement sages. À Dublin, l'héroïne fait alors des ravages. Mais à Belfast, pas de drogue dure en raison d'un strict embargo décrété par les organisations paramilitaires. Les punks de Belfast se contentent de bière, de cidre bon marché, de glu et de musique. Des disques qu'ils vont donc trouver chez Good Vibrations, mais aussi chez Caroline Music, un autre disquaire. Pourtant, bientôt, le punk local va connaître le déclin de la même manière que la scène britannique. En cause, l'émergence de nouvelles modes musicales, la fragmentation du punk en une infinité de micro-cultures. Et puis il y a l'hostilité des paramilitaires qui, de plus en plus souvent, débarquent et interrompent les concerts. Good Vibrations a un fonctionnement qui ressemble un peu à son fondateur, enthousiaste, mais foutraque. Aucun contrat n'est jamais signé, les relations reposent exclusivement sur la confiance. La devise de Terry Hooley, « Je le veux, je le fais », prend du plomb dans l'aile. Et puis il y a ces sorties de singles, retardées par le fait qu'aucune usine de pressage digne de ce nom n'existant au Nord, les disques sont fabriqués à Londres ou à Dublin, et cela prend des mois. Nous préférerions être des échecs qu'être possédés par d'autres, avait déclaré un jour Terry. Sauf que l'argent manque et que les groupes que Good Vibrations avait produits se barrent progressivement ailleurs, à l'image de Rudy. Je ne peux pas te dire si notre amour est vrai, dis-moi plutôt, est-ce vrai? Le temps est compté, je ne serai pas arrêté, la pression est là, chaque jour. The Pressure Is On, dernier single enregistré par le groupe Rudy avant que celui-ci ne quitte Good Vibrations et Terry Hooley, avec qui le courant ne passe plus. Le label qui met finalement la clé sous la porte fin 81, début 82. Criblé de dettes, Hooley en sortira ruiné, sa femme le quittera après la naissance de leur enfant. La guerre civile survivra à la scène punk de Belfast ou de Derry, hélas assez longtemps, jusqu'à la signature, bien plus tard, en 98, des accords de paix dits du Vendredi Saint. 30 ans, 3500 morts et 48 000 blessés après les émeutes de Derry. En rapprochant les membres de communautés divisées, le punk aura sans doute fait ce qu'il pouvait. Dans les pubs de Belfast aujourd'hui, on entend surtout des pintes qui s'entrechoquent. Ah, et puis aussi, depuis 2002, Good Vibrations a réouvert. Mais tout ça, c'était avant. Avant qu'on imagine que la frontière séparant les deux Irlandes pourrait être ressuscitée par les errements politiques de Londres. Laquelle frontière pourrait bien réveiller les vieux démons d'hier ? Ainsi se referme ce numéro de Jukebox, ce soir Belfast 77-82, les troubles à la sauce punk. À lire les travaux de Timothy Aaron, auteur en 2015 d'une thèse sur le sujet à l'université de Reims et qui a largement nourri l'écriture de cette émission. Une émission préparée par Sam Boutata, Antoine Villose, Manuela Dubessy, Alina, avec l'aide d'Angira Resposito et les conseils précieux de Pauline Vermar. Rendez-vous sur franceculture.fr à la page de Jukebox où vous retrouvez la liste des morceaux et des archives diffusées et depuis laquelle vous pouvez en un clic exporter les playlists vers les principales plateformes d'écoute en ligne. Ce soir à la technique, c'était Benjamin Vignal, merci à lui. Agnès Catou à la réalisation, un salut à John Gaudi. Au micro à Maurice Chardot à samedi 19h pour un prochain Jukebox.